Donc, on continue ce soir dans notre étude. On est rendu, on va finir le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. On avait regardé un peu par rapport au Seigneur Jésus comme un plus grand messager. Au début, c'est un plus grand prophète parce qu'il nous a parlé de la part de Dieu. Un plus grand messager, c'est en rapport avec le message. C'est le message de salut. Le message de salut, c'est qu'il est lui qui était si haut et descendu si bas pour prendre si peu puis l'élever si haut, mais on voit qu'il était plus grand que les anges. Les anges étaient des messagers qui étaient envoyés par Dieu. La loi avait été donnée par des anges, mais le Seigneur Jésus est plus grand que les anges. Il est au-dessus des anges, tellement au-dessus des anges, parce qu'il est Dieu lui-même. Puis il est venu aussi pour accomplir le salut, puis nous donner le message. On a parlé du message de salut qui est encore mieux expliqué dans le Nouveau Testament. Puis, fait qu'on va continuer ce soir. On va commencer dans le chapitre 2. On va lire par rapport à des citations d'Ésaïe qui sont dans le chapitre 2. Donc, on va commencer au. Peut-être on va lire à partir du verset 9. Il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. On va s'arrêter un moment pour lui demander son aide. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce encore une fois ce soir. On est dans ta présence. On s'attend de toi, Seigneur. On s'attend que tu nous révèles. On sait que tu veux nous révéler ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est lui qu'on veut voir. On veut, comme tu nous montres, qu'il est tellement supérieur à tout. On te remercie pour ça, Seigneur. Puis bénis-nous. Merci pour tous ceux qui sont là, afin qu'on puisse tous recevoir une bénédiction de ta part au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on est ici, on va regarder un peu les citations qui sont données ici. C'est des citations qui sont du livre d'Ésaïe. Puis il y en a un qui c'est le psaume 22. La première, c'est le psaume 22. Ensuite, c'est le livre d'Ésaïe, le chapitre 7 et le chapitre 8. Donc quand il dit, premièrement, dans le verset 12, il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc, ça, c'est le psaume 22 qui est cité ici, le psaume 22 au verset 23. Puis, dans le psaume, quand on regarde dans le psaume 22, on voit qu'il décrit les souffrances de la crucifixion. Puis, dans le verset 23, maintenant, il part des souffrances de la crucifixion et il passe maintenant à la résurrection. C'est là, dans la résurrection, qu'il dit en ce temps-là, je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Parce que dans la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a expié nos péchés, mais dans sa vie maintenant, il nous donne la vie. Donc ici, le thème passe de la crucifixion à la résurrection. Puis c'est là qu'il dit, je publierai le nom du Père, il publie le nom du Père à ses frères. L'accomplissement, on le voit dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 17, quand Marie est venue pour toucher le Seigneur, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Alors, ça, c'est l'accomplissement du psaume 22, je publierai ton nom parmi mes frères. dans l'assemblée. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, dans sa résurrection, le Seigneur Jésus nous transporte maintenant dans la présence du Père qui devient notre Père et lui devient notre frère. On avait dit ça. Donc, il annonce à ses frères le nom du Père dans la résurrection. C'est ça qui était. Puis, par sa mort, nos péchés sont expiés. Il est mort pour nos offenses, mais on est réconcilié pour nous réconcilier. Mais par sa résurrection, nous sommes sauvés. Nous avons la vie. C'est de la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'on vit maintenant, quand on a reçu le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, évidemment. Dans Romains 4, 25, il dit qu'il a été livré pour nos offenses, sans rapport, et il est ressuscité pour notre justification. Donc, il a payé pour nos offenses en mourant sur la croix, c'est la rançon pour nos péchés. Mais dans sa résurrection, ben, c'est pour notre justification. Notre justification, c'est vraiment, ça veut dire d'être déclaré juste devant Dieu. On est déclaré juste par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains, au chapitre 5 et le verset 10, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et vous, la mort. Mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ aussi est très importante, parce que si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, on serait encore dans nos péchés, on n'aurait pas la vie. Donc la vie nous est venue par la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première citation. Comme il dit ici, je publierai, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. La deuxième citation est au verset 13. Il dit, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. La citation de je me confierai en toi, c'est dans chapitre 8 d'Ésaïe, au verset 17. Il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance, ou je me confierai en lui. Donc, on voit, c'est la citation de Ésaïe, au chapitre 7. Au chapitre 8 et au verset 17 qui est mentionné ici, mais ensuite il dit, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça, c'est Ésaïe 8 au verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est ce qu'on lit dans Ésaïe 8, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc ici, c'est que Ésaïe, vraiment, il lui est donné de ses enfants qui lui ont été donnés sont des signes aussi. C'est que c'était dans l'annonce, Ésaïe donnait l'annonce imminente du jugement. On sait que dans le prophète Ésaïe, Israël était prêt d'aller en captivité à cause de leur péché. Mais c'est l'annonce imminente du jugement, mais il y a une offre de salut. Le Seigneur donne toujours une façon d'être sauvé. Avant de juger. Donc, les deux fils d'Ésaïe, on voit le premier dans Ésaïe au chapitre 8, au verset 3, il dit, je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher-Shalal-Shash-Baz. Donc, le nom Maher-Shalal-Shash-Baz, ça veut dire qu'on se hâte de piller. Donc, c'est le jugement quand Babylone allait venir, puis qu'il allait pillés, en Israël, le roi d'Assyrie sont venus, ils ont pillé, ils ont tout volé, puis quand ils ont volé aussi les choses du temple, puis tout ça. Donc, on se hâte de piller, c'était l'annonce du jugement de la captivité de Juda ici. Mais il y avait un autre enfant aussi dans Ésaïe, chapitre 7, au verset 3. Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Shir Jashob, ton fils, donc c'est un autre fils. Shir Jashob, il dit, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Puis là, il lui dit au verset 4, il dit, lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine de la Syrie et du fils de Remalia. Donc ici, il vient avec son fils qui s'appelle Shir Jashob, puis ce nom-là, ça veut dire, un reste reviendra et se convertira. Un reste reviendra et se convertira. Donc, c'est dans l'annonce imminente du jugement, ben, il annonce aussi qu'un reste va revenir de l'exil. Puis, pour nous, ça représente quoi? Ben, ça représente que dans l'imminence du jugement, il y a une possibilité de salut. Puis, c'est vrai, on sait que là, maintenant, le jugement est proche, la tribulation s'en vient, mais il y a une possibilité de salut. Le Seigneur s'adresse à l'ensemble pour le jugement, mais il s'adresse à un reste, il s'adresse à ceux qui vont chercher un moyen de salut, puis le Seigneur pourvoit un moyen de salut ici. Mais s'il y a une possibilité de salut, ben, il faut la saisir comme une opportunité unique. Donc, si le Seigneur pourvoit un moyen de salut, ceux qui veulent s'en prévaloir, ben, il faut qu'ils se l'approprient d'une façon unique. C'est important de vraiment saisir, c'est ça qu'on va voir aussi en avançant, de saisir ça comme quelqu'un qui est en train de se noyer puis qu'on lui lance une bouée de sauvetage, bien, il va s'agripper à cette bouée de sauvetage-là. C'est important pour pouvoir en profiter. Sinon, il n'y a pas d'autre alternative que de passer dans le jugement. C'est un message vraiment important parce qu'il n'y aura pas d'autre façon. C'est une seule façon. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une façon unique. Le salut de Dieu est unique et il faut le saisir comme ça, sinon, il n'y a pas d'alternative, sinon le jugement. Voyez-vous, dans le chapitre 2, verset 3, l'Hébreu dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et aujourd'hui, il y a un moyen de salut, c'est la même chose, c'est que si les gens ne saisissent pas ce moyen de salut, bien, ils vont avoir il n'y a pas d'autre alternative que de passer dans le jugement. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui pourvoit devant l'imminence du jugement, qui pourvoit un moyen de salut. Puis ici, on sait que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux s'adressait aux Juifs qui étaient tentés de retourner au judaïsme. Puis là, il leur montre que vraiment, il va y avoir le jugement, mais il faut qu'ils s'agrippent au Seigneur Jésus ici, puis pas retourner, et ne pas retourner en arrière. Dans le chapitre 6, au verset 19, il nous montre que ce moyen de salut-là, il est sûr et certain. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Si c'est un moyen unique de salut, et c'est le moyen parfait. C'est le grand moyen que Dieu nous a donné, puis c'est le salut qu'on a dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de là l'importance de ne pas retourner en arrière. Voyez-vous, là, il présente le Seigneur Jésus comme le moyen de salut, puis il ne faut pas retourner en arrière, il ne faut pas se détourner de lui, parce que si on se détourne de lui, bien, ce moyen de salut-là nous devient inutile. Et pour eux, c'était quoi de retourner en arrière? Mais c'est de retourner au rituel du judaïsme, de retourner à ça au lieu de rester attaché au Seigneur Jésus, qui, lui, était vraiment la réponse de tout ce que ces choses-là dans le judaïsme étaient des ombres des choses à venir, mais ça représentait le Seigneur Jésus, donc c'était important. Mais pour eux, c'était de retourner au rituel du judaïsme, qu'ils ne possédaient pas, parce qu'il fallait continuellement qu'ils offrent des sacrifices qui rappelaient le souvenir des péchés au lieu d'enlever le péché. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, lui, il enlevait le péché, puis c'est important de rester attaché à lui. Puis pour nous, c'est quoi? Ben, c'est un avertissement de ne pas retourner à la religion de forme sans vie, une religion de rituel, de forme. Puis c'est vraiment des gens qui se confient dans quelque chose, qui disent, ah ben moi, je ne fais pas de mal à personne. Puis souvent, les gens, quand on leur prêche l'Évangile, ils opposent l'Évangile avec leur religion, en disant, ben moi, je ne fais pas de mal à personne, je fais du bien, ou j'ai ma religion, ou c'est vraiment de s'attacher à quelque chose d'autre quand il y a seulement une façon d'être sauvé, c'est de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, c'est triste aujourd'hui, on sait qu'on est dans un temps de déclin. Puis les évangéliques même, on sait que dans la religion, bien, les gens suivent des rituels, ils suivent des ordonnances d'hommes. Mais les évangéliques aujourd'hui sont portés à retourner à des rituels et de la forme, une religion de forme. Pourquoi qu'on voudrait retourner à ça? Bien, c'est parce que, vous savez, pour avoir la réalité, pour avoir la jouissance de la présence du Seigneur, bien, il faut se séparer. Il faut se séparer du monde pour être uni au Seigneur Jésus, pour connaître l'intimité du Seigneur Jésus. Il faut se retirer du monde pour. Puis c'est ça qui n'est pas populaire aujourd'hui. On n'aime pas, les gens n'aiment pas la séparation du monde. Les gens veulent vivre comme le monde. Puis même des chrétiens, ils veulent vivre comme le monde. Mais on ne peut pas avoir le monde puis le Seigneur. C'est impossible. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est important de vraiment qu'on soit séparé du monde. Puis, ça, c'est la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un message qui est populaire aujourd'hui. La sanctification, c'est de ne pas se conformer au monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ça se fait dans l'intimité avec le Seigneur, en coupant les choses du monde, le péché, puis s'approchant du Seigneur Jésus, puis lui, il nous change, il nous transforme. Quand on regarde au Seigneur Jésus, bien, on est transformé de gloire en gloire par le Seigneur Jésus. Donc, si on n'a pas une expérience au niveau de l'esprit, parce que vous savez, on est quand même des êtres religieux. L'homme est un être religieux. Puis, si on n'a pas vraiment l'expérience au niveau de l'esprit, on va en rechercher une au niveau de la chair. Puis c'est ça qui est triste dans un sens dans le monde évangélique aujourd'hui, c'est que on va rechercher une expérience au niveau de la chair au niveau de l'esprit. Puis souvent dans les églises aussi, il y a des inconvertis qui peuvent avoir la même expérience que les convertis parce que ça se passe au niveau de la chair. Puis elle s'élève pas au niveau spirituel. Mais une chose qui est quand même encourageante dans le déclin, c'est que dans le déclin, l'individu qui recherche le Seigneur va le trouver, car le Seigneur va se réveiller à lui, révéler à lui d'une façon merveilleuse. C'est ça qui est le message dans les enfants, des fils d'Ésaïe, c'est que oui, il y a l'imminence du jugement, mais pour celui qui va rechercher, Dieu a pourvu un moyen de salut qui semble peut-être pas important pour la plupart, mais pour celui qui le recherche, il va trouver quelque chose de merveilleux. Parce qu'on voit que dans le chapitre 7 d'Ésaïe, en rapport avec tout ce passage-là qui annonce l'imminence du jugement, mais aussi un moyen d'échapper que Dieu a pourvu, Dieu va donner ici à son peuple ou à ceux qui recherchent, parce que vous savez, les signes que Dieu a donnés au peuple d'Israël, c'est pas tous qui les ont recherchés. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a accompli les signes, puis pour plusieurs, ça leur a passé par-dessus la tête. Mais certains, ceux qui cherchaient, ceux qui attendaient, ceux qui désiraient, ils ont pu voir le signe que Dieu leur avait donné. Puis regardez, c'est quelque chose dans ce passage-là d'Ésaïe. Dieu leur parle d'un grand signe au chapitre 7, au verset 10. L'Éternel parlait de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Le Seigneur, il donne l'opportunité, il dit, demande un signe, que ce soit n'importe quoi, demande un signe. Il veut qu'il recherche. Puis il dit au verset 12, Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ça semble une certaine humilité, mais c'est pas une humilité, c'est vraiment c'est une indifférence. C'est ça qui est triste quand on est indifférent au signe que Dieu veut nous donner. Puis il dit, demande-le, demande un signe, que ce soit demande un signe dans les lieux élevés ou demande-le soit dans les lieux bas ou soit dans les lieux élevés, je vais te le donner. Puis même s'il dit qu'il veut pas de signe, ben le Seigneur il donne quand même un signe. Il dit, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal, choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc, il donne un signe, puis c'est vrai, c'est un grand signe qu'a donné la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Puis ça nous parle du Seigneur Jésus qui va naître d'une vierge. Puis les autres, ils ont dit, les chefs religieux, quand le Seigneur Jésus était devant eux, il a dit, nous, on n'est pas des enfants illégitimes. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que le Seigneur Jésus était né, il avait été conçu en dehors des liens du mariage parce que Joseph était fiancé à Marie, puis elle s'est trouvée enceinte. Mais ils ont manqué le signe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient indifférents, parce qu'ils ne cherchaient pas le signe. Mais à ceux qui cherchent, le Seigneur répond. À ceux qui cherchent, le Seigneur donne. Il dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est à ce peuple-là que le Seigneur s'adresse. C'est à ceux qui ont le désir, ceux qui veulent. Puis, moi, je trouve ça vraiment encourageant parce que si on est dans un temps de déclin, bien, le Seigneur, il veut se révéler à nous autres. Puis, il dit, comme à l'église de Laodicée, hein, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, c'est une église qui n'a pas besoin de rien. Tu sais, ils sont riches, ils sont enrichis, ils n'ont besoin de rien. Mais le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu, ils réalisent même pas leurs conditions. Ils n'ont pas le désir pour le Seigneur. Puis, n'ayant pas le désir pour le Seigneur, bien, ils continuent comme sans lui. Il n'est pas là parce que le Seigneur dit dans le chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. » Le Seigneur est dehors. Il frappe à la porte et il dit, « Et je frappe. » Puis là, c'est là que si tous ceux qui sont dans l'église n'entendent pas frapper, il dit, si quelqu'un, là, il s'adresse à l'individu qui cherche, si quelqu'un entend ma voix, les autres sont trop occupés, ils n'entendent pas la voix du Seigneur, mais s'il y en a un qui s'arrête pour entendre la voix du Seigneur qui frappe, il dit, entends ma voix et ouvre la porte. Voyez-vous, je trouve ça tellement encourageant. Là. Si nous, on a un désir, puis qu'on cherche la voix du Seigneur, puis qu'on est prêt à lui ouvrir la porte de notre cœur, ben il va entrer. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, c'est une relation dans les deux sens que le Seigneur offre. Puis ça, je trouve ça vraiment encourageant, là. Puis comme on a lu dans Ésaïe 7, versets 10 à 14, c'est tout un signe que le Seigneur a donné. La Vierge est devenue enceinte. Siméon l'a vu, lui, puis il l'a pris dans ses bras, puis il a dit, regarde, il dit, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Il avait été divinement averti qu'il verrait le salut de Dieu avant de mourir. Puis là, il le voyait. Puis, voyez, c'était celui qui cherchait, celui qui désirait, celui qui écoutait, celui qui était prêt à recevoir le message du Seigneur. Mais il l'a reçu, puis il est parti en paix parce qu'il avait vu la promesse de Dieu s'accomplir dans le salut. Puis c'est un salut merveilleux. C'est juste un petit enfant. Les autres, il est allé le présenter au temple. Puis les autres ne se sont pas rendus compte de ça. Mais Siméon, lui, il l'avait vu. Puis Anne aussi, la prophétesse. Puis on pense aussi à tous les disciples du Seigneur Jésus, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont appelé, qui l'ont suivi. Donc c'est vraiment un moyen de salut dans l'imminence du jugement. Le Seigneur s'adresse à l'individu. Puis le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ben, il va la trouver dans ses peu, comme il l'a trouvé quand il est venu la première fois. C'est pas tout le monde. La majorité s'en allait, ils ressentaient pas leurs besoins, ils désiraient pas la voix du Seigneur, mais ceux qui la désiraient l'ont reçue. Puis ça va être la même chose à la fin. Maintenant, on va aller au chapitre 3. On va lire les versets 1 à 6. Parce qu'ici, c'est un plus grand serviteur qu'on avait dans le début du chapitre 1. C'était un plus grand prophète. Dieu nous a parlé maintenant par son Fils. Après ça, c'était un plus grand messager. Donc, un messager qui apportait le message de salut. Et là, maintenant, on voit un plus grand serviteur. Parce que là, le Seigneur est présenté comme un serviteur, mais comme Fils, il est supérieur à Moïse en tant que serviteur. Puis c'est quelque chose de penser au Seigneur Jésus comme un serviteur. Une fois, j'avais vu un petit livret qui était écrit, c'est l'Éternel, le serviteur éternel. Puis là, je me disais, ben voyons donc, ça se peut, il faut que ce soit le Seigneur Jésus, là. Mais j'en revenais pas, tu sais. Puis c'était basé sur le texte que heureux ses serviteurs, lorsque le Maître viendra, qu'il les trouvera veillants. Et je vous dis qu'il s'avancera, il les fera asseoir à table, il se ceindra, il s'avancera pour les servir. Avec le Seigneur. Puis on parlait cette semaine au festin des noces de l'agneau et on dit, je sais pas si ça va être les anges qui vont nous servir au festin des noces de l'agneau. Moi, je crois que c'est le Seigneur Jésus qui va nous servir. C'est difficile à réaliser ça, là, mais c'est lui qui va s'avancer, il va se ceindre, il va s'avancer. Il a lavé les pieds de ses disciples dans la nuit même où il fut livré. Puis il va s'avancer, puis il va nous servir. Mais la nourriture qui va nous servir, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va s'avancer, puis imaginez-vous comme sur le chemin d'Emmaüs, quand les disciples l'entendaient ouvrir les Écritures, puis présenter les choses dans l'Écriture qui le concernaient. Puis on dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'en chemin il nous expliquait les Écritures? Ça va être vraiment une expérience extraordinaire de faire ça. Mais si on lit ici dans le chapitre 3, au verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc ici, on voit que le Seigneur Jésus, il est plus grand serviteur que Moïse. Puis ici, dans le verset 1, on voit que c'est comme on avait parlé auparavant, les cieux s'ouvrent maintenant pour qu'on puisse y voir un homme glorifié, officiant, le Seigneur Jésus qui est monté au ciel, qui est un homme dans la gloire maintenant. Puis on est invité à le considérer. On est appelé à le considérer. Cette fois-ci, ce n'est pas pour l'imiter. Il dit, comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais ici, ce n'est pas dans le sens de l'imiter. Ce n'est pas pour le considérer ou le regarder dans le sens pour l'imiter, mais c'est pour notre assurance dans la marche, de considérer le Seigneur Jésus pour avoir de l'assurance dans la marche. Vous savez, l'assurance qu'on a dans le Seigneur Jésus, c'est vraiment merveilleux, là. Parce que dans les religions, il n'y a pas d'assurance. Parce que c'est tout le temps basé sur ce que toi tu fais. Mais nous, c'est basé sur ce que le Seigneur Jésus a fait. Puis c'est pour ça que notre assurance dépend de ce que lui a fait. Donc, si on le considère dans son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait, puis l'endroit qu'il est, où il est maintenant, dans la gloire, ben ça nous donne l'assurance. Fait que nous autres, on peut marcher avec assurance parce que qu'est-ce que ce serait de vivre toute notre vie pour le Seigneur, puis qu'à la fin, on n'ait pas d'assurance, que ça, là, il donnait rien, il arrivait quelque chose, puis on a une assurance merveilleuse. C'est ça qui nous pousse à avancer parce que sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand Paul parle de la résurrection du Seigneur Jésus, il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, on est appelé à le considérer pour avoir l'assurance pour marcher. Puis on va voir que dans le chapitre 3, après, il va nous parler du repos, de trouver le repos. Le repos, c'est quoi? Ben, c'est d'obéir, c'est d'avancer dans l'obéissance, de ne pas, comme eux, ils étaient portés à retourner en arrière, mais ils disaient non, il faut avancer, il faut chercher le repos dans l'obéissance. On en parlera une prochaine fois. Mais il y a une expression qu'on voit, puis c'est intéressant quand on étudie la parole, il y a des expressions qui reviennent dans le même livre. Puis on dirait qu'en le lisant et en le relisant, ces expressions-là ressortent. Puis, il y en a plusieurs dans l'Épître aux Hébreux qui des expressions qui reviennent toujours. Puis, il y a un but là-dedans. L'expression que je veux vous parler ici, là, c'est, il dit, c'est pourquoi. Ces mots-là, c'est pourquoi. C'est pourquoi là, nous parle d'une cause à effet. Donc, c'est pourquoi. Il nous dit quelque chose, puis là, l'effet de ça, il dit, c'est pourquoi qu'on doit arriver. Premièrement, dans le chapitre 1 au verset 9, il avait dit ici, mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause attendez un petit peu, au chapitre 1, verset 9, excusez-moi. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ici, c'est parce qu'il a aimé la justice, puis il a haï l'iniquité. Le pourquoi, c'est pourquoi Dieu l'a oint. Dieu a oint le Seigneur Jésus. Dans le chapitre 2 au verset 1, il commence avec c'est pourquoi. C'est pourquoi nous devons d'autant nous attacher. C'est pourquoi c'est à cause de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ Il dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses entendues. Donc, c'est la grandeur, à cause de la grandeur du messager, c'est pourquoi on doit s'attacher aux choses qu'il nous a dit, les choses qu'on a entendues. Dans chapitre 2, au verset 11, il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, ici, c'est que, parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dans chapitre 3, au verset 1, comme on a lu ici, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, le pourquoi ici, c'est parce qu'il a souffert et qu'il a été tenté, et ainsi il peut nous secourir. C'est pourquoi il faut le considérer dans sa fidélité à nous secourir. Faut qu'on garde ça en pensée. Dans le chapitre 3, verset 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Ici, c'est pourquoi, parce que Christ est fidèle sur sa maison, qu'on va voir dans le chapitre 3, verset 1 à 6, parce qu'il est fidèle sur sa maison, c'est nous, mais il faut obéir à sa voix. Ensuite, au chapitre 6 et au verset 1, il commence, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, ici, le pourquoi, c'est parce qu'il y a une nourriture solide. Il avait parlé d'une nourriture solide qui doit être, qu'on doit accéder à cette nourriture solide-là. Mais il dit, arrêtons-nous pas. C'est pourquoi, arrêtons-nous pas à des choses élémentaires. Mais poussons vers la connaissance. Donc, s'il nous a donné une telle nourriture, prenons-la. Profitons de la provision qui nous a été faite. Ensuite de ça, dans le chapitre 6, au verset 17, on voit encore cette expression, c'est pourquoi. Il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Donc, ici, c'est pourquoi c'est parce que Dieu a fait une promesse immuable à Abraham. Bon, mais c'est pourquoi Dieu ne peut pas manquer à sa promesse envers nous. Il est impossible que Dieu mente. S'il a fait la promesse à Abraham, puis qu'il l'a gardée, il a pas menti, il a gardé sa promesse, bien, nous autres aussi, il nous fait des promesses, puis on doit vraiment s'attacher à ces promesses-là, parce que Dieu ne peut pas mentir. Dans chapitre 9, au verset 18, maintenant, et un autre, c'est pourquoi ici, il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Puis il avait dit auparavant, au verset 17, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est sûr qu'un testament, il est là, puis il est bon, mais si le testateur est vivant, bien, le testament n'est pas encore valable, hein. Il faut que la mort soit, puis quand on va exécuter un testament, bien, il faut avoir la preuve que celui qui a fait le testament est décédé. La preuve de la mort, l'acte de mort qui a été émis pour que le testament rentre en vigueur. C'est pourquoi, si le testament n'est pas valable sans qu'il y ait le décès du testateur, bien, voilà pourquoi il faut le sang pour sceller l'alliance. Le sang démontre que la mort a eu lieu. Parce que si le sang est versé, c'est la preuve que la mort a eu lieu. Donc, c'est pourquoi il faut que le sang pour sceller l'alliance. Ensuite de ça, au chapitre 10 et au verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce qu'il avait dit auparavant, autrement, n'aurait pas. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, si c'était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, ben, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, c'est pourquoi que Christ devait avoir un corps, entrer dans le monde pour s'offrir lui-même et verser son sang. Dans le chapitre 11, au verset 12, il dit, ici, 11 au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Parce qu'il avait dit au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'était d'un homme qui était déjà usé de corps aussi. Donc, parce qu'il fallait que ce soit par la foi, ben c'est pourquoi la postérité devait naître d'une façon impossible, miraculeuse. Puis c'était d'un homme déjà usé de corps, puis d'une femme aussi qui était avancée en âge. Elle était rendue capable d'avoir, parce que ça doit être par la foi. C'est à cause de ça. Il fallait qu'Abraham croie et sa foi lui a été imputée à justice. Après ça, on arrive au verset 11, au chapitre 11, verset 16. Il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il dit, au verset 14, il dit, ceux qui parlent ici montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc ici, la cause, c'est parce qu'ils désirent une meilleure cité, une patrie céleste, mais Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de ces gens-là. Les dieux qui ont la foi en lui, comme il s'est fait appeler le Dieu d'Israël, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu qu'il est appelé le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Pourtant, Jacob, c'est pas à cause que Jacob était un homme droit, Jacob était un homme qui était croche, mais Jacob avait la foi. Mais Dieu n'a pas honte. Moi, je me sens que je ne devrais pas associer mon nom à Jacob. Mais Jacob a bien terminé quand même. Jacob, il a terminé sa vie appuyé sur son bâton, assis sur son lit, appuyé sur son bâton qui démontrait son infirmité, puis il a adoré Dieu dans la foi. Donc, qu'est-ce que Dieu a pu faire avec Jacob? Mais il peut le faire avec nous aussi. Donc, parce qu'ils désirent une meilleure patrie, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ensuite, on va dans le chapitre 12, au verset 28. Dans le chapitre 12, au verset 28, il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Au verset 27, il dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Ici, c'est parce qu'il va y avoir un changement des choses ébranlées vers les choses inébranlables. Puis, donc, c'est la cause, et l'effet, ben, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable dans un temps où les choses qui vont être ébranlables vont tomber, mais nous, on a reçu un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc, c'est le fait que le Seigneur nous a donné un royaume inébranlable dans le temps où les choses ébranlables vont passer. Ben, nous, on doit montrer notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Donc, c'est ça les c'est pourquoi qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux. C'est une expression qui revient à plusieurs reprises, puis c'est bon de les regarder puis les méditer. Mais si on revient à notre chapitre 3, il dit dans le verset 1, il s'adresse à ceux qui sont saints séparés. C'est pourquoi frères saints qui avaient part à la vocation céleste. Donc, il s'adresse ici à ceux qui sont saints, c'est-à-dire ceux qui sont séparés, ceux qui ont part à la vocation céleste. Ça, c'est en rapport avec son ministère d'apôtre, comme on a vu dans le chapitre 2, verset 11. Là, il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, pour nous sanctifier, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est offert lui-même. Il était envoyé pour être l'offrande ou la rançon pour nos péchés. Le Seigneur Jésus, il a souffert. Ça, c'est en tant qu'apôtre qui était envoyé pour accomplir le salut. Mais la vocation ici, la vocation céleste, c'est en rapport avec son ministère de souverain sacrificateur. Dans le chapitre 2, verset 17, il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc le Seigneur Jésus ici, il est venu accomplir le salut, mais aussi sa tâche ne s'arrêtait pas seulement à accomplir le salut pour nous, mais il doit nous conduire. Comme Moïse, quand il a amené la loi, il devait conduire le peuple jusque dans le pays. Mais le Seigneur Jésus aussi, il n'est pas venu accomplir le salut, puis s'est en allé, puis il nous a laissé orphelins. Mais sa tâche continue, parce que sa tâche, c'est lui qui est l'initiateur ou le chef de notre foi, puis il est aussi le consommateur. Donc, non seulement il est venu initier la foi, mais il va la rendre à perfection, il va la rendre à son but. Paul pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le Seigneur Jésus, il est là comme l'offrande pour nos péchés, mais aussi il est le souverain sacrificateur pour nous amener jusque dans la gloire. Et il voulait conduire plusieurs à la gloire, comme on voit ici dans le chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc ça, c'est la tâche du Seigneur Jésus de nous amener jusque dans la gloire. Donc, en tant que serviteur, il est envoyé pour nous sauver puis aussi pour nous amener à la gloire. Le verset 2, il dit Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Moïse avait été établi par Dieu sur la maison de Dieu. Puis on voit ça dans Nombre, chapitre 12, versets 7 à 8. Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est pourquoi après ça, il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ça s'adresse à Marie et à Aaron, parce qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse, puis parce qu'il disait qu'il avait épousé une femme étrangère. Puis il a dit, le Seigneur, il parle pas juste par Moïse, là. Puis là, ils ont voulu s'opposer, se rebeller contre Moïse. Puis le Seigneur, il leur dit ici, là, il leur dit, là, il n'en est pas ainsi. Il dit, moi, quand un prophète parle, je donne une parole au prophète, mais il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Puis on va voir ça à partir du verset 7 du chapitre 3, là. On va voir qu'il va dire, là, de ne pas se rebeller, endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la tentation. Si vous entendez sa voix, écoutez-le. Parce que Moïse était fidèle, puis il y avait une révélation de Dieu bouche à bouche, il y avait une représentation de Dieu, il voyait les choses, il savait. Mais le Seigneur Jésus, d'autant plus, il ne faut pas s'endurcir, parce que le peuple s'endurcissait contre Moïse, puis il n'écoutait pas Moïse. Puis Marie et Aaron, eux, ils s'étaient rebellés contre Moïse. Puis le Seigneur les a châtiés, Marie. Il semble que Aaron, c'est un suiveux. Hein, Aaron. Marie, il semble qu'elle a été leader là-dedans pour amener à critiquer Moïse. Puis des fois, on va entendre critiquer, puis on suit ceux qui critiquent. Il faut faire attention. Aaron est un peu comme ça. Le peuple, il dit, fais-nous un veau d'or, puis il lui a fait un veau d'or. Il suivait Aaron. Mais on voit que Marie, elle semble avoir pris la direction, puis c'est elle qui elle est devenue lépreuse. Il a fallu qu'elle soit mise en dehors du camp. Mais là, ici, il parle de Moïse. D'avoir parlé contre Moïse, c'est une chose. Mais ici, le Seigneur Jésus est beaucoup plus grand que Moïse. Puis c'est la gloire, au verset 3, il dit, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. La gloire de ce serviteur est beaucoup supérieure du fait que lui, non comme Moïse, qui devait recevoir les instructions sans énigme, parce qu'il avait été montré sur la montagne un modèle dont il devait construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Il avait eu les instructions, c'est pour ça qu'il fallait l'écouter, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait selon les instructions du Seigneur, mais le Seigneur Jésus, lui, il avait été dit à Moïse dans Exode 26, 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mais Christ, lui, il était celui qui avait donné les instructions pour construire. Puis même, c'est lui que les instructions, c'était pour représenter le Seigneur Jésus. C'est lui qui avait donné les instructions, Donc, il y avait plus de gloire que la maison même, parce que la maison était construite pour révéler le Seigneur Jésus. La maison devait refléter la gloire du Seigneur Jésus. Le modèle pour le tabernacle, c'était Christ lui-même qui devait être révélé au peuple. Donc, Moïse avait construit ce tabernacle-là avec le modèle qui lui était monté sur la montagne. Puis, c'était important que ça soit fait exactement. Puis, on voit constamment que pendant la construction, que c'était fait comme Moïse l'avait vu sur la montagne, selon le modèle que Moïse avait vu sur la montagne. Mais ici, Moïse était seulement un serviteur ici. Mais le Seigneur Jésus, il est un serviteur aussi dans la maison pour construire la maison. Puis la maison, c'est nous, là. On est des pierres vivantes construites par le Seigneur Jésus pour être une habitation de Dieu en esprit, lui étant la pierre angulaire. Donc, lui est plus grand encore que Moïse, là. Puis, c'est ça qui est important. Il y a une gloire plus grande à celle que Moïse. Parce que la maison devait refléter. Puis, la maison qui est construite maintenant avec les pierres vivantes qu'on est, nous autres, bien, elle doit refléter la gloire du Seigneur Jésus. Puis, c'est pour ça qu'on est tous, chacun de nous, on est une facette. Étant sauvés, on est une facette du Seigneur Jésus. On va représenter, parce qu'ensemble, on est le corps du Seigneur Jésus. On est ensemble, on est une habitation de Dieu en esprit. Le constructeur, c'est qui? Au verset 4, il dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc, le constructeur, c'est Dieu, et le Seigneur Jésus est Dieu. Donc, c'est tellement plus grand que Moïse ici. Moïse, au verset 5, il nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse avait eu la vision sur la montagne, il avait eu les instructions de Dieu, puis là maintenant, il devait le transmettre au peuple, il devait le révéler au peuple pour que Dieu puisse être connu. C'est pour ça que le peuple d'Israël pouvait connaître par rapport à Dieu, c'est en regardant dans le tabernacle les choses qui représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Moïse lui a été fidèle de révéler au peuple Dieu dans sa maison. C'est important, là. On ne peut pas faire les choses comme on voulait, là, parce que ça, s'il y avait des choses qui venaient de l'homme, puis le Seigneur Jésus ne peut jamais, on ne peut pas avoir de révélation du Seigneur Jésus qui vient de l'homme, parce que l'homme va toujours avoir une révélation faussée. Mais il faut vraiment que la révélation nous vienne de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous fait connaître le Seigneur Jésus. Puis on sait qu'il y a eu à un moment donné, les hippies disaient que Jésus était un hippie, ils se faisaient un Jésus à leur image. Dans Jésus-Christ Superstar, on faisait un Jésus-Christ à notre image, mais il ne faut pas faire un Jésus-Christ à notre image. Il faut se référer à la révélation de la parole de Dieu pour connaître le Seigneur Jésus. C'est vraiment important. C'est Dieu qui construit selon, puis Moïse, il fallait qu'il fasse attention pour construire selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne, parce que ces choses représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Puis pour nous, qu'on lit ces choses-là c'est pour ça que l'étude du tabernacle, l'étude du temple, c'est des choses intéressantes. Parce que nous, maintenant, en connaissant le Seigneur Jésus, on peut le reconnaître dans ces choses. Quand il nous parle des choses qui sont faites en bois d'acacia, donc ça nous parle de son humanité qui est incorruptible et qu'il était recouvert d'or. Ça nous parle de sa divinité. Puis toutes ces choses-là, ça, qui sont dans le tabernacle, ben, c'était construit du bois d'acacia recouvert d'or. Ça nous parle du Seigneur Jésus. Donc, mais maintenant, dans le verset 6, il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et il revient encore avec l'exhortation ici, là. C'est important de demeurer. Parce que si on demeure, on va être cette maison-là qui va refléter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on se laisse construire par lui. C'est lui qui prend les pierres vivantes puis qui les assemble ensemble. Puis tant qu'on va se laisser assembler, on va refléter la gloire du Seigneur Jésus. C'est important de comprendre ça aussi. Mais pour ça que dans Colossiens 2,17, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Puis ensuite de ça, ben, il va arriver au verset 7. Au verset 7, ben, c'est l'exhortation à ne pas se rebeller, mais recevoir le message qui va nous donner le vrai repos. Puis on regardera le repos la semaine prochaine, qui on va avoir en écoutant le message, en recevant le message, en recevant le serviteur qui, lui, a toutes les instructions pour nous faire comprendre, nous faire, nous révéler vraiment le Seigneur Jésus pour qu'on puisse être façonnés. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Fait que je vais m'arrêter là pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de reprendre votre micro, OK, puis pour des commentaires ou des questions.
C'est plaisant de reconnaître que le constructeur, c'est le Seigneur Jésus, finalement. Et tu sais, y aura pas d'erreur dans la construction, là, dans la maison, là. C'est le constructeur parfait. Puis, comme tu l'as, t'as dit un mot tout à l'heure par rapport au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, là, tu as mentionné, il dit, c'était sa tâche. C'est la tâche du Seigneur Jésus. C'est quelque chose, hein, de penser que c'est lui qui a la tâche, qui a le fardeau, si on peut l'appeler comme ça, là, qui a le fardeau de conduire à Dieu, à la gloire, beaucoup de fils. C'est sa tâche à lui. Mais comment on ne peut pas être reconnaissant envers un pareil serviteur, comme tu l'as tellement bien mentionné, là. C'est vraiment fantastique de voir comment que le Seigneur Jésus est grand, puis c'est beau.
Ah oui. C'est pour ça qu'il faut l'écouter.
Oui, amen.
Ouais. Et quand Moïse, comme Moïse, quand il construisait, ben, on voit que ça dit tout le temps que ça mentionne que c'était comme Moïse avait vu sur la montagne. Puis quand c'est le Seigneur qui nous construit, puis qu'on se laisse façonner par lui, ça va être comme selon le modèle, c'est lui qui est le modèle.
Oui.
Peux-tu me rappeler, Michel, le verset?
Pardon?
C'est quoi le verset que tu as mentionné?
C'était le
10.
verset 10. Il convenait, chapitre 2, verset 10, il
OK.
convenait en effet.
Ça marche, OK. J'avais compris, chapitre 10. Merci.
Non, 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 excuse-moi.
OK.
Comme ça, c'est une promesse que Dieu nous fait que lorsque nous serons avec lui, nous serons glorifiés.
Oui.
C'est une promesse qu'il nous fait.
Oui.
C'est toute une espérance qu'un
Ah
jour, on va être dans la gloire. On va partir de notre nature humaine à une nature glorifiée
Oui, c'est ça.
par la promesse de sa parole ici.
Oui. C'est sa tâche à lui. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est la tâche du Seigneur Jésus-Christ de nous amener là. C'est quelque chose. J'en reviens pas.
Puis des fois, à cause de notre désobéissance, comme on va le voir, là, il n'y avait pas trouvé le repos. Quand on se rebelle, ça prend plus de temps à nous façonner. Mais un jour, ça va se terminer. Comme tu me dis, le jour de la résurrection, on va revêtir l'incorruptibilité, puis l'immortalité, puis en un instant, en un clin d'œil, il va la terminer à ce moment-là. Puis elle va être parfaite, l'image va être parfaite.
Je lui demande souvent de ne pas se décourager.
Non. Ouais. Puis si on résiste, ben là, ça devient pénible pour nous autres.
Ça me faisait penser, dimanche dernier, on a regardé le texte dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 21, qui donne la même pensée sous une forme différente en rapport avec la sanctification, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, pas une partie, là, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Pourquoi? Pour lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est le verset 23.
Ouais.
OK.
23.
Ouais.
1 Thessaloniciens 5, 23.
C'est ça.
Et verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera.
Oui, amen, oui.
Amen.
Et puis, ça me faisait penser que dans le mariage juif, la mariée devait être préparée, sanctifiée. C'est l'image de l'Église avec le Seigneur. Il nous prépare. Mais mec, qu'ils viennent, on va être prêt parce que c'est lui qui va l'avoir fait.
Oui.
Puis on va être entièrement sanctifié lors de son avènement. Ça, c'est relié avec son avènement. Puis, en tout cas, c'est vraiment lui qui a comme la job de le faire. Des fois, on trouve qu'il vient de l'ouvrage.
Oui, ça, c'est la même pensée ici. Ouais.
C'est rassurant que ce soit le Seigneur qui le fasse.
Ouais, ouais, ben oui.
Moi, ça me rassure tellement là, parce que il est
ah,
parfait.
Oui.
Puis il nous
ouais,
aime.
C'est ça. Ouais. C'est
on a
pourquoi.
Juste à y faire confiance.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Lorsque vous mentionnez, Gérald, dans Apocalypse 3:20, que le Seigneur parle, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je pensais aux disciples d'Emmaüs lorsqu'ils étaient en présence de Jésus et que Jésus s'est ouvert à eux. Combien ça doit être merveilleux pour eux hein, de reconnaître que Jésus était là devant eux. Hein?
Oui.
Quelque chose de spécial. Hein?
Il les a pris dans la tristesse puis il les a laissés avec des cœurs brûlants.
Oui.
Joie.
Puis ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Puis moi, j'aime à penser que quand il est venu pour rompre le pain, ils ont vu ses mains percées.
Oui.
Il l'a reconnu.
Je n'avais pas pensé à ça.
Finalement, ils ont invité le Seigneur Jésus à souper. Puis, finalement, ils n'ont pas souper. Hein? Ils sont virés de bord, ils sont retournés.
Mais c'est un bon point, ça, Denis, hein, parce que quand on est avec le Seigneur puis qu'on se réjouit dans le Seigneur, on veut être avec les autres frères et sœurs. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns.
Ouais.
Hein?
Ouais, on veut jamais que ça se termine.
Je demandais à un frère, je crois qu'il est sauvé, mais ça fait des années qu'il a laissé l'assemblée, puis il est rendu à 80 ans. Et là, j'ai dit, tu ne penses pas des fois de revenir? Ah, il ne dit pas pour l'instant. Ben, j'ai dit, attends pas trop, on va être parti. Il ne réalise pas, c'est triste parce qu'il ne réalise pas toute la. C'est sûr que la vie d'assemblée, ce n'est pas toujours facile, mais c'est merveilleux. C'est un peu comme le mariage, ce n'est pas toujours facile, mais c'est merveilleux.
Pour ça qu'il faudrait être au rendez-vous à la conférence du mois de mai.
Ben oui, c'est ça, oui. Ben oui. Non, je pense qu'on est arrivé à. Oui, on est arrivé à 8 heures. C'est qu'on va terminer avec un mot de prière pour ceux qui doivent partir. Puis s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser après. Seigneur, notre Dieu, on te remercie parce que oui, c'est vraiment merveilleux, notre Dieu. L'œuvre que tu fais à travers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui était représenté par les choses qui se sont faites dans l'Ancien Testament avec un serviteur comme Moïse qui a été fidèle parce qu'il avait vraiment vu le modèle sur la montagne, puis il avait fait bien attention de construire selon le modèle pour que ce soit vraiment à l'image de ce qui lui avait été révélé. On te remercie, notre Dieu, parce que maintenant, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, non seulement lui, il est le constructeur, mais toute la maison, c'est lui. C'est lui qui en est la tête, puis nous, on est son corps. Il nous construit ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, on te prie qu'on puisse se laisser vraiment façonner par lui, afin que ce soit, qu'on puisse devenir de plus en plus selon le modèle que nous tous ont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mais on te remercie, Seigneur, parce que c'est ta tâche. C'est lui qui va l'accomplir. Quand il va venir nous prendre en un instant d'un clin d'œil, il va faire de nous ce que nous serons pour toute l'éternité. On te rend grâce dans son nom merveilleux. Puis merci pour tous ceux qui sont là ce soir, Seigneur. C'est vraiment encourageant. Puis on te prie pour la conférence à Rivière-du-Loup. Ceux qui peuvent, Seigneur, qui peuvent venir se rencontrer avec nous, ce serait vraiment encourageant de se voir ensemble et de pouvoir encore continuer dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.